BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino.
Oui, je sais, nous a quittés après 70 ans de règne. Oui, je sais, on va avoir froid cet hiver. Oui, je sais, il n'y a plus de gaz. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est quand même pas mal, hein. C'est votre argent, c'est votre week-end et ça va être une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce que les événements sont exceptionnels. Exceptionnels parce qu'on va essayer, je dis on va essayer parce qu'il y a des gens qui n'arriveront pas sur ce plateau à le faire, de vous donner des... Je vise personne, vous verrez. Hein. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre l'économie, la finance et les placements. Ça ne va pas être facile. Pour, vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, évidemment, il faut des invités exceptionnels et j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Elle est entrée récemment, alors de moins en moins récemment, je le répète à chaque fois, mais ça commence à faire quelques mois, dans le cercle très fermé des prévisionnistes et économistes de C'est Votre Argent, et elle est devenue déjà incontournable. Valentine Hénouze, bonjour.
Bonjour.
Vous avez, alors, votre titre, j'arrive pas. Vous êtes
c'est
responsable
pas,
adjointe
pas,
de la recherche et stratégie des marchés développés chez Amundi. Il faut leur dire de changer, là.
On va faire ça.
Vous êtes d'accord? Je vais envoyer un petit mot, si vous voulez.
Allez-y.
Le mot des parents. Gestionnaire d'actifs et entrepreneur, bah c'est exactement les profils comme on les aime. Il a créé une des plus belles startups de la gestion indépendante en France. C'est Sébastien Lalvé, vous êtes directeur général de la financière Arbevel. Toujours un plaisir de vous avoir, même si je suis jamais d'accord avec vous. Jamais, et je ne le serai jamais.
Et réciproquement.
Je sais qu'elle a bossé, alors là, je peux vous dire, là, tous les sujets, toute la semaine et pendant toute la nuit, qu'elle va encore nous étonner. C'est notre première de la classe, Pascal Sévi. Vous aussi,
bonjour,
votre
Marc.
Titre, Jarry Ford, team manager
il
chez Odo,
simple,
BHF. Team manager.
C'est simple.
Ouais. Ouais, bon, enfin, bon.
Il y a une équipe, je la gère.
Ah, d'accord, mais vous n'êtes pas en basket, là, team manager.
Bah, de plus en plus souvent depuis le confinement.
Moi, il m'a manqué, hein. Même s'il m'agresse tout le temps, il nous a manqué. Hein, vous m'avez envoyé quelques mots. Deux mois sans celui qui incarne à la fois la compétence et la sympathie, notre ami Emmanuel Le Chiffre. Je dis ça en début d'émission.
Ouais.
À la fin de l'émission, ça sera pas du tout pareil.
C'est comme vous avez fait avec Pascal, quand vous avez fait premier de la classe, je m'attendais à dernier de la classe.
Non, pas du tout, c'est pas ce que je pense. Alors, pour ceux qui ont suivent l'émission en podcast ou à la radio, ils n'ont pas vu le nouveau look d'Emmanuel Le Chip, puisqu'Emmanuel Le Chip a un book, il a changé complètement. Il y a un événement qui a fait... Vous avez un truc à nous annoncer ou pas?
Alors,
parce que souvent, on dit quand une femme change de coiffure... Enfin,
non,
est-ce que quand un homme met un book...
Non, c'est juste que quand vous rentrez de vacances un peu bronzé et que vous avez laissé pousser vos poils, vous dites, si je me rase juste là, j'ai l'air complètement ridicule. Vous voyez, les filles, elles visualisent très bien ce que ça veut dire. Donc, je dis, je vais attendre un peu de débronzer.
Bon, on attendait un scoop, il n'y a pas de scoop.
Bah, je vous le donnerai pas.
Ok. Allez, on démarre tout de suite avec les nouvelles rubriques. Le mot de la semaine. Bah oui aussi, évidemment le mot de la semaine c'est dollar, nous aussi we need a dollar, c'était la semaine de tous les records, hein. Au plus haut contre la livre sterling depuis 37 ans, au plus haut contre le yen depuis 1998, l'un euro qui a flirté avec les 0,98, derrière la hausse du dollar il y a des raisons géopolitiques, des raisons macroéconomiques mais aussi un différentiel de taux, je trouve ça très passionnant parce qu'il y a tous les éléments qui font l'intérêt de l'économie. Quelles sont les causes de la hausse du dollar, Valentine? Quelles en sont les conséquences? Et est-ce que, comme ça je pose toutes les questions et vous savez à quoi vous attendre, est-ce que la baisse de l'euro, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la zone euro? Commençons par les raisons de...
Ouais. Aujourd'hui, on a un dollar qui est fort, mais nous, on continue toujours d'être très positif sur ce dollar. Donc, il y a des raisons, évidemment, géopolitiques, etc. Mais il y a surtout, pour moi, ce qui explique ce dollar fort, c'est ce différentiel de taux et de politique monétaire. Aujourd'hui, on a une Fed qui monte ses taux pour essayer de contenir les pressions inflationnistes. On a une Fed qui veut aujourd'hui ralentir la demande. Mais il se peut que ce que le marché anticipe en termes de hausse de taux ne soit pas suffisant pour permettre de ralentir la demande. Aujourd'hui, on a une économie américaine qui est extrêmement résiliente. Et je citerai quatre raisons de cette résilience. La première, c'est surtout sur le marché de l'emploi. On a aujourd'hui, aux États-Unis, 11 millions d'emplois vacants. C'est-à-dire, pour chaque demandeur d'emploi, on a deux emplois vacants. Et l'impact des hausses de taux sur le taux du chômage et sur les salaires sera atténué par cette pénurie de main-d'œuvre.
C'est-à-dire qu'on a un taux de chômage qui est monté un tout petit peu, il passait de 3,5 à 3,7,
oui,
mais c'est marginal.
Mais
ce que vous dites, c'est que même si l'économie ralentit, de toute façon, le temps qu'on remplisse tous les postes
exactement,
à pourvoir... Ça
va prendre du temps. Donc c'est
ça, c'est la première raison. Vous
voilà,
dites qu'il y en avait quatre.
Il y en a quatre. L'autre, c'est le marché de l'immobilier. Donc on a des fondamentaux aujourd'hui sur les marchés de l'immobilier aux États-Unis qui est bon. Alors oui, on a des hausses de taux.
Ah oui, moi j'ai entendu le contraire.
Non, Oui, mais après, attention, ouais. On a des hausses de taux, le marché de l'immobilier ralentit, il est aujourd'hui extrêmement cher, on a un recul des ventes, mais on n'est absolument pas dans le même contexte que 2008.
D'accord.
Aujourd'hui,
il n'y a pas de surendettement, vous dites.
Exactement. Si on regarde le bilan des ménages américains, il est très bon. Les ménages américains sont peu endettés. Les octrois de prêts au cours des 10 dernières années n'ont été faits qu'à des ménages qui ont des très bons ratings. Donc on a les taux de défaut sur les prêts immobiliers qui
donc
sont très faibles.
Donc pas de subprime, troisième et quatrième raison rapidement.
Et après, les stocks aussi, les stocks sont bas aux États-Unis sur les biens immobiliers. Les biens immobiliers. L'autre point, c'est les liquidités accumulées par les ménages américains pendant la crise du Covid qui vont les protéger contre l'effet richesse négatif qu'on a avec la baisse des actions ou les baisses à venir sur les prix de l'immobilier. Et la dernière raison, la quatrième raison, c'est sur les entreprises, le coût de financement de leurs dettes est aujourd'hui sur des niveaux bas. Les entreprises ont augmenté la maturité moyenne de leurs dettes. Elles ont vraiment bénéficié des conditions de financement extraordinaires qu'on a eues pendant la période Covid pour faire baisser leurs coûts. Donc c'est hausse de taux vont mettre du temps avant de se répercuter sur l'économie américaine pour les faire ralentir.
Alors pour une fois, c'est avec Valentine, je ne suis pas tout à fait d'accord. Emmanuel, je veux avoir votre opinion, parce que je pense qu'il y a quand même un phénomène, au-delà du différentiel de taux d'intérêt, vous l'avez cité, il y a quand même ce phénomène géopolitique majeur. C'est-à-dire, pour moi, les États-Unis sortent grand gagnant de la guerre en Ukraine. Et donc, pour un investisseur aujourd'hui, si on cherche un pays dans lequel il y a du potentiel pour l'industrie militaire, on peut tout citer, l'énergie, on vote les États-Unis.
Je ne reviendrai pas sur toutes les raisons économiques qui ont été parfaitement expliquées.
D'accord.
Après, c'est vrai qu'il y a toujours d'autres dimensions. Et là, en fait, on a l'impression que tout se conjugue pour aller dans le même sens. Et effectivement, la dimension géopolitique, elle existe et elle pousse effectivement à aller vers le dollar. Moi, ce qui m'inquiète finalement dans cette situation, c'est qu'à chaque fois qu'on voit s'enclencher ce genre scénario, qui est-ce qui trinque souvent ? C'est les pays émergents. C'est quand vous avez finalement les capitaux qui reviennent vers les États-Unis, quand vous avez le dollar fort qui fait que ces pays-là ont du mal après à rembourser leurs dettes en dollars, quand vous voyez déjà la situation catastrophique de beaucoup, d'une trentaine ou d'une quarantaine de pays qui se sont encore pas remis de la crise sanitaire.
En gros, c'est les pays émergents qui ne sont pas producteurs de matières premières.
Voilà. Et là, moi, j'avoue que, en fait, j'ai pas tant que ça d'inquiétude pour le cœur de l'économie mondiale. Par contre, j'ai beaucoup d'inquiétude pour la périphérie.
On va parler. Pascal,
le dollar. Moi, je m'inquiète aussi parce que je trouve que quelque part, les conséquences, en fait, elles sont néfastes pour tout le monde. Même pour l'économie américaine, certes, elle est résiliente, mais il y a quand même pas mal de sociétés qui exportent. Ouais. Je crois que c'est 40% des sociétés du S&P qui exportent quand même à l'étranger. Et pas plus tard qu'il y a encore quelques semaines, quand les résultats étaient publiés, IBM indiquait par exemple une perte de 900 millions de dollars sur le change, juste sur la période qui vient de s'écouler. Donc quand même pour les sociétés...
Contrebalancé par une puissance phénoménale.
Oui, mais ça leur coûte quand même.
D'accord.
Ça leur coûte malgré tout. C'est néfaste pour l'Europe. Alors le côté positif, c'est que nous, on exporte, donc à bon compte, ça on est content, mais ça ne contre en rien l'inflation importée qui vient des matières premières qui sont facturées en dollars.
On a quand même l'impression, je vous arrête deux secondes, que c'est à chaque fois, c'est un lose-lose. C'est-à-dire que quand l'euro est haut, on nous explique sur tous les plateaux, c'est très mauvais pour les exportations.
Non, il y a juste
et là, quand il est bas, donc ça veut dire que de toute façon, on n'est jamais content.
Sur
quoi.
Les mouvements de change, en général, quand vous avez l'euro qui baisse, ça profite beaucoup à quelques secteurs. Et ça pénalise de façon un peu plus diffuse beaucoup d'autres secteurs.
Ça aurait pu profiter à l'Europe si on n'avait pas ce problème de l'énergie, parce que là on aurait exporté, on n'aurait pas eu cette inflation importée contre laquelle il est très compliqué de lutter. Et c'est néfaste, comme l'a dit Emmanuel, sur les émergents. Donc au final, ce mouvement qui a été massif, il est vraiment pas agréable. Il est agréable pour les investisseurs qui achètent des actions américaines. Évidemment. Ou qui passent dans les obligations américaines.
Ça contrebalance les pertes, notamment sur les actions tech qui sont quand même massives.
Ouais, mais comme on est à plus 15 depuis le début de l'année sur l'euro-dollar, malgré tout, et puis on peut aller acheter des obligations qui rémunèrent pas mal aujourd'hui, même sur du monétaire américain. Si on peut voir au moins quelque chose de positif dans l'histoire.
Sébastien Lalvé, qu'est-ce que ça vous inspire ? À la fois la puissance des États-Unis en économique, géopolitique, militaire actuelle, et son expression sur les marchés par la hausse du dollar.
Non, c'est moi ce que ça m'inspire, c'est que l'Europe touche constamment d'un don de la farce en fait. C'est que là, on est dans la géopolitique drive un peu tout en ce moment, et là, on se rend compte que c'est que des rapports de force, que l'Europe peine à parler d'une seule voix, pour toutes les raisons qu'on connaît, qui sont historiques, et qu'en même temps, nos alliés, c'est pas les Chinois, clairement, ça n'a jamais été, c'est pas les Russes. On dit que nos alliés, c'est les Américains, mais les Américains, c'est des pompiers pyromanes, on le voit bien avec l'Ukraine, en réalité, sur plein de sujets. Donc l'Europe se retrouve un peu esselée avec...
Ça, c'est mauvais. Nous, on n'est pas une émission politique. Hein. C'est mauvais pour notre argent, c'est mauvais pour les investissements en Europe.
Bah, là,
Parce que ce que vous décrivez, c'est pas très...
Non, on n'est pas une émission politique, évidemment.
Ça donne pas envie d'investir en Europe,
on
c'est ça
que
je veux
dire. On n'est pas une émission politique, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait des sénateurs qui étaient en train d'expliquer à Biden qu'il fallait arrêter forcément de livrer du gaz en Europe si on en avait besoin. Donc,
on rappelle juste un truc intéressant qui va dans votre sens, que les réserves américaines de pétrole sont au plus bas et que ça commence à gueuler aux États-Unis parce que, notamment, on met ses réserves sur le marché pour faire baisser le prix et les Américains disent bon, on s'en fout.
Et qu'un des grands changements géopolitiques des dernières années, ça a été le gaz de schiste et l'impact que ça a eu sur la politique extérieure, politique étrangère américaine. Donc mon point, c'est que l'Europe est une zone de libre-échange. C'est peut-être la dernière en réalité. C'est une zone ouverte. C'est la seule à ne pas se protéger. Et quand on voit...
Et on paye le prix.
Et jusqu'à présent, ça marchait plus ou moins avec une donnée qui était qu'on croyait que l'énergie, c'était moins de 2% du PIB européen. Ça l'était. Aujourd'hui, je crois que j'ai eu des chiffres à 16. Donc, ce n'est pas du tout la même histoire.
Allez, justement, on enchaîne directement sur la question de la semaine qui est liée à ce qu'on vient d'écouter. Vous êtes déjà exprimé sur le sujet. Est-ce qu'on est entré dans une récession durable ?
Tu comprendras plus tard.
Moi, je n'ai pas envie de comprendre plus tard. J'ai envie de comprendre maintenant. On a envie de connaître la réponse. Maintenant, on a longtemps hésité. Rappelez-vous, entre une non-inflation, une inflation temporaire, une inflation durable. Maintenant, on parle d'inflation galopante. Alors, pour la récession, est-ce que c'est la même chose ? On nous a expliqué qu'il n'y avait pas de récession. Et maintenant, on nous dit qu'elle sera peut-être temporaire. Est-ce qu'elle va être durable ? Est-ce qu'il y a récession ? Est-ce qu'elle est temporaire ? Est-ce qu'elle est durable ? Ou est-ce qu'il ne faut pas avoir un raisonnement global et plutôt avoir un raisonnement par zone géographique, Emmanuel de Chypre ?
Moi, déjà, premier point. On est à l'abri d'une crise financière exceptionnelle, c'est-à-dire de l'ampleur de ce qu'on a connu en 2008, puisque dans ses propos décidément très riches, Valentine nous a rassuré sur l'immobilier aux États-Unis, et ça c'est important, c'est-à-dire que oui, on aura peut-être un cycle immobilier, vous voyez. Ce que je veux dire, c'est qu'on
c'était
aura peut-être...
intéressant d'ailleurs, parce que c'est pas ce qu'on entend.
Non, mais
c'est
on aura peut-être une récession classique, après on peut se battre à quelques dixièmes de points de PIB en dessous de zéro, ce qui est ça qui est important. Un, il n'y aura pas de crise structurelle, financière, donc ça c'est...
Là vous parlez mondial.
Ça c'est un bon point, oui, aux États-Unis, en Europe. Après, moi, je suis pas pessimiste. Alors, sur l'inflation, moi, je pense qu'elle n'est pas du tout durable, au moins à ces niveaux-là. C'est-à-dire que quand vous regardez quand même tout ce qui a fait l'inflation, quand vous regardez toutes les germes inflationnistes aujourd'hui, ils sont tous en train de s'éteindre les uns après les autres. Ça veut dire que quasiment toutes les matières premières sont stables ou en train de baisser.
En Europe, l'électricité et le gaz.
Non, mais...
c'est quand même important,
encore,
ça reste important.
Il y en a encore de l'inflation dans les tuyaux. Ouais. C'est sûr que quand vous voyez les prix à la production qui sont entre plus 25 et plus 35% sur un an, bien sûr qu'il y en a encore. Mais quand vous regardez, encore une fois, les matières premières, quand vous regardez les semi-conducteurs, la crise, elle est quand même en train de s'atténuer. Quand vous regardez le prix du fret maritime, quand vous voyez, par exemple, un indicateur qui est très intéressant, qui est l'indicateur de perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, vous voyez qu'on a culminé à très très haut il y a quelques mois, et que là, on a rebroussé à peu près un tiers du
chemin.
Donc
vous nous dites quoi ? Alors on a bien compris. Donc inflation temporaire.
Inflation mais au moins divisée par deux ou trois d'ici la mi-2023.
D'accord. Récession.
Et après, moi je ne crois pas à la récession. Pour une raison simple, c'est que les entreprises, même si elles sont en moins bonne situation financière, elles ont absolument besoin d'embaucher. Et là encore, ce qu'on disait sur les États-Unis est vrai. Et c'est vrai aussi en Europe. Elles vont continuer à investir. Et les ménages... Regardez la prévision de l'INSEE sur le pouvoir d'achat des ménages. Moins 3 au premier semestre, plus 2 au deuxième semestre. Donc on va se retrouver avec des ménages qui vont quand même avoir du pouvoir d'achat. Alors est-ce qu'ils vont vouloir épargner, etc. On sait pas. Mais grosso modo, après, on s'engendre le zéro peut-être, mais moi je suis pas plus inquiet que ça.
Et juste un truc sur l'inflation, sur le prix de l'électricité. Il faut quand même se poser la question de comment il est fixé. Oui. Parce que quand on voit que aujourd'hui c'est un sujet central, qui peut baisser de 50% en 48 heures... moi j'aimerais vraiment savoir exactement ce qui se passe, quelle est la partie purement spéculative, non capée de ce genre de sujet.
D'où les initiatives européennes qui vont probablement.
Oui, mais qui veulent caper le prix.
Oui,
c'est autre chose. Non, mais c'est autre chose. Moi c'est sur le mécanisme de fixation du prix. Qui intervient avec le but de l'utiliser, qui intervient uniquement à des buts de racheter ou de revendre de façon spéculative sur un marché comme celui-là. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de se poser la vraie question du mécanisme de fixation de ce genre de choses.
Valentine, récession, pas récession, temporaire ou durable ?
Alors, je pense que ce qui est très important, c'est pas juste de regarder récession par récession, mais de regarder le couple croissance-inflation. Et c'est okay. vraiment, c'est les choses extrêmement importantes. Et qu'aux États-Unis, il y a un ralentissement de l'économie. Ça, je le nie pas. Hein. On a aujourd'hui vraiment l'économie américaine qui ralentit et qui va continuer de ralentir.
Et qui doit ralentir.
Exactement.
Parce que si on la fait pas ralentir, c'est-à-dire si on la fait même pas rentrer en récession, on n'arrivera pas.
Voilà. C'est volontaire. Ce ralentissement, il est voulu par la Fed. Pour réduire les pressions inflationnistes. Le ralentissement sur la zone euro, il est subi. C'est quand même quelque chose de fondamentalement différent. Il est subi, il est dû à cause des prix de l'énergie, du mix énergétique en zone euro, et qui pèse sur les ménages et les entreprises. Et le risque aujourd'hui, c'est de se retrouver dans un environnement où on a ce ralentissement ou cette récession, mais avec toujours un niveau élevé d'inflation. Et ce risque, je le vois beaucoup plus se matérialiser sur la zone euro, où nous, dans notre scénario,
donc
on a...
stagflation, vous.
C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ce risque de stagflation, mais même, je dirais, plus fort qu'une croissance faible. C'est une récession avec une inflation qui reste élevée. Parce qu'aujourd'hui, les hausses de taux de la BCE, on est tous d'accord, bon, elles ont leur raison, on va en parler après, mais elles n'auront que très peu d'impact sur cette inflation.
Mais c'est quoi une inflation qui reste élevée, par exemple?
5-6,
on a une inflation qui reste élevée.
Je vois absolument pas de cas de figure où on peut être, c'est-à-dire, je vois même pas en Europe comment on peut être au-dessus de 4%.
On est déjà à 9, attendez.
Oui, 9,1%, mais on est dans la
première. Mais attendez, ça fait combien de semaines que toutes les matières premières énergétiques, alors l'électricité, d'accord, elles n'augmentent pas?
Voire elle baisse.
Donc on reste, on aura peut-être des prix encore élevés, je suis d'accord. Mais l'inflation, c'est-à-dire
l'accélération,
ça va retomber forcément.
Oui, mais quand? Et là, on a ces prix élevés qui vont se répercuter maintenant dans les entreprises, parce que les entreprises sont en train aujourd'hui de revoir leurs contrats multiannuels et annuels. Donc cette hausse de prix-là qu'on voit nous en spot sur les marchés, elle va se répercuter maintenant sur les entreprises.
Justement, c'est ça qui est très intéressant comme transition. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vu quand même que les entreprises ont largement répercuté les hausses des coûts? On l'a vu, hein. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à le faire? Parce que ça n'a pas eu d'impact sur la demande, mais maintenant, est-ce qu'elles peuvent continuer à répercuter la hausse de prix sans que ça ait d'impact sur la demande?
Déjà, heureusement que les entreprises sont mieux gérées que les États. Et toutes celles qui sont électro-intensives ou énergie-intensives, de toute façon, elles fonctionnent en contrat pluriannuel et elles sont hedgées de toute façon, couvertes au moins sur 12 mois. Donc, il est vrai que l'impact sur les entreprises cotées en bourse de la hausse de l'énergie est peu visible en 2022.
Mais je parle de la hausse des coûts en général, simplement l'électricité. Ok, je comprends.
C'est au cas par cas.
Ouais.
Mais sur les celles qui sont vraiment intensives en électricité, enfin en énergie, on l'a pas vu sur les comptes publiés jusqu'à maintenant, du premier semestre. On commencera à le voir au deuxième semestre et ça sera beaucoup plus violent en 2023. Donc en réalité...
En 2023, vous dites donc que les résultats des entreprises seront moins bons, c'est ça?
Ah bah oui.
Bah oui.
Non, mais je veux dire, c'est que l'impact de la hausse de l'énergie, toute seule, hein, si on prend que ça, ne sera véritablement visible en 2023, alors qu'elle pouvait être plus ou moins camouflée en 2022, par le fait qu'elles étaient couvertes et par le fait qu'elles arrivaient à passer les hausses de prix tout de suite.
Pascal Sévy, la récession?
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense qu'aux États-Unis, on va y arriver, mais de manière voulue, en effet, alors qu'en Europe, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai quand même peur de comment la Banque centrale va agir dans cet environnement. Est-ce qu'ils vont prendre les bonnes décisions au bon moment pour pas qu'on se retrouve justement dans ce scénario extrêmement néfaste?
Eh bien, c'est... Pardon.
Non, je voulais juste dire un mot par rapport aux prix qui ont augmenté de manière générale. À moins que je me trompe, j'ai pas souvent vu des entreprises qui rebaissaient les prix parce que finalement les matières premières coûtaient moins cher.
Ah si.
Pas tant que ça finalement. Une fois que vous avez fixé votre prix de votre pot de confiture à 3 euros.
Non.
Je suis pas certaine, à part des actions coup de poing beaucoup d'entreprises.
Pas en B2C, mais
alors c'est un autre débat. Je voudrais quand même qu'on parle de la BCE. Je lance quand même le chiffre du semestre. La hausse des taux par la BCE cette semaine, alors 0,75%, est-ce que c'est suffisant ou trop? Je vous ai interrompu, Pascal Sévy, c'est suffisant ou trop, 0,75%?
C'était largement attendu. D'ailleurs, le marché a plutôt bien réagi. Pour moi, elle n'a pas fait ça parce qu'il fallait qu'elle monte les taux pour baisser la demande, mais elle a plutôt fait ça en soutien monétaire pour ne pas aggraver encore plus les pressions qu'il y a sur la devise. Donc oui, c'est la bonne décision, oui, c'est la bonne ampleur, mais ça n'a pas été fait forcément pour les raisons qui ont été évoquées, comme le fait la Fed.
Valentine Hennouz, vous rappeliez tout à l'heure 9,1% d'inflation. Bon, si on regarde de l'inflation plutôt moyen terme, je suis assez d'accord avec Emmanuel, il vaut mieux regarder les 3,5 ou des 4%, mais même 3,5, 4%, quand on a objectif à 2% et qu'on monte les taux à 0,75%, on est complètement à côté de la plaque, non?
Bah oui, la BCE va devoir, nous, on pense que la BCE va devoir continuer de monter ses taux, et pas forcément pour des bonnes raisons pour faire baisser l'inflation, mais parce qu'elle n'a pas le choix. Mmh. La BCE va devoir monter ses taux pour permettre, pour éviter un désancrage des anticipations d'inflation, c'est-à-dire pour éviter que tous les agents économiques se mettent à anticiper qu'on ait une inflation qui dérape, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement déstabilisant pour une économie et pour soutenir la devise.
Mais sauf qu'on ne peut pas anticiper à la fois...
Pour soutenir la devise, je pense que...
Pour soutenir l'euro.
Mais vous pensez que c'est un sujet?
Surtout si la Fed...
Vous pensez que c'est un sujet?
Bah oui, c'est un sujet, parce que la facture énergétique est payée en dollars.
Emmanuel Lechypre. Alors,
c'est un sujet, on vous le dira jamais comme ça, mais on vous dira la stabilité de l'euro participe de la stabilité générale des prix et que patati patata. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir le pire de toutes les situations. C'est-à-dire, vous pouvez pas à la fois avoir des anticipations de forte inflation et des anticipations de récession. Ça, c'est juste pas possible. Donc il faut choisir. C'est pour ça que quand la BCE dit...
Bah, c'est possible,
non, mais
en séquence. En séquentiel.
Bien sûr. Mais quand la BCE dit, hier, on remonte les taux et on anticipe, et pourquoi pas une récession l'année prochaine, je trouve ça absurde. Donc, elle peut remonter...
Pourquoi je comprends pas ça pour moi?
Mais parce aussi. Qu'elle peut remonter autant qu'elle veut ses taux d'intérêt, ça n'aura aucun impact sur les vraies racines de l'inflation, et ça ne fera que précipiter, effectivement,
la récession. C'est typiquement un argument que je comprends pas, parce qu'il n'y a pas qu'une inflation par l'offre. C'est-à-dire, on caricature en disant aux États-Unis c'est la demande qui est forte, c'est pour ça qu'il y a de l'inflation. En Europe, c'est parce que l'électricité est forte et c'est une inflation. Non, c'est pas vrai. On est quand même à un taux de chômage qui est un plus bas historique depuis très longtemps dans la zone euro. On a quand même une sortie de Covid où on avait une croissance qui était extrêmement forte. On a une demande qui est trop forte, aussi en Europe.
Non, mais est-ce que vous trouvez que les salaires dérapent? Est-ce que vous trouvez que...
Ils augmentent, j'ai pas dit qu'ils dérapaient.
Non, et je veux dire, pour le moment, on est loin des effets de second tour, etc.
Bah, vous
etc.
le disiez vous-même qu'il y a beaucoup de tensions, je vous ai lu et écouté, il y a beaucoup de tensions sur le marché du travail en France, en Europe, il y a une adéquation entre l'offre et la demande, ça se traduit quand même par une situation de tension.
Et donc, si vous montez les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe?
Bah, ça ralentit
Est-ce que vous croyez que ça va
ralentir la demande, oui.
Au marché du travail. Donc c'est ça. Donc en fait, vous ajustez par le bas.
Oui.
C'est-à-dire qu'en gros, comme on a un tout petit moteur de 2 chevaux, vous considérez que la solution, c'est pas d'augmenter la puissance du moteur de la 2 chevaux, ce qui serait la sortie par le haut.
Ouais, d'accord.
C'est plutôt de se ramener à une vitesse de 2 chevaux.
Ouais. Bah, j'ai plus une âme d'enfant, quoi.
Non, je veux dire, c'est pas. Je comprends, mais c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que je pense que la rusticité de la réponse aujourd'hui des banques centrales, si vous voulez, je pense que quand on voit le chemin qui a été fait pendant 30 ans de déflation par les banques centrales, quand on voit de quoi on est parti, de il faut surtout pas être prévisible, etc., qu'on est parti finalement au contraire il fallait être prévisible, les QE, etc., les banques centrales, elles ont complètement réinventé leur politique monétaire en déflation.
Elles ont réinventé.
Aujourd'hui, elles abordent cette remontée de l'inflation qu'on n'a pas connue depuis 40 ans avec les mêmes outils et les mêmes propos qu'il y a 40 ans. Donc moi je pense qu'il y a tout un travail à faire, une démarche intellectuelle à faire. C'est quoi trouver les bons mots, par exemple, aujourd'hui, pour éviter
non, mais au-delà
tout
des
ce qu'on
bons
raconte.
Mots, je suis d'accord,
non, mais
au-delà des bons mots, ce qu'on pourrait se dire quand même, c'est comment, alors que même des gens ici sur le plateau le disaient, comment les banques centrales n'ont pas vu venir l'inflation? C'est quand même totalement aberrant. Pourquoi elles ont réagi si tard?
Non, mais je suis pas d'accord. Il y a deux types d'erreurs de prévision chez les économistes. Il y a l'erreur qui relève de la faute professionnelle, c'est-à-dire des mécanismes.
Et là, on est dans la faute.
Mais pas du tout. Non.
Totalement.
Mais pas du tout.
Totalement.
Vous pouvez pas dire avec
totalement.
Le Covid. Mais non.
Sortie de Covid.
Mais attendez.
Excès de demande. On était sûr qu'on aurait de l'inflation.
Il y aurait pas eu Covid et il y aurait pas eu la guerre. On n'aurait pas 9% d'inflation.
D'accord, mais je parle.
Donc on n'est pas dans les tendances.
Emmanuel Lechypre.
C'est des événements imprévisibles.
Imprévisible avant le Covid. Le Covid sort, il n'y a pas du tout de hausse des taux. On a la sortie du Covid, il n'y a encore pas de hausse des taux.
Alors, est-ce que avant l'Ukraine, de vous comporter comme si on entrait dans un cycle d'inflation durable et séculaire, alors qu'on subit juste un choc massif et ponctuel, non, lié à des événements invraisemblables, extraordinaires?
Il n'était pas ponctuel, non, parce qu'on l'a alimenté avec l'argent magique. Sébastien,
t'avais le stop and go post-Covid qui était lié au fait qu'on avait un stop and go industriel et notamment en Asie, donc il y a eu ce goulet d'étranglement qui a alimenté le début de l'inflation. Donc moi je pense qu'il y a un an, quand les banques centrales
mais
disaient...
Mais on le disait ici, c'était visible.
Oui, mais t'avais l'histoire disant qu'à partir du moment où les Chinois vont arrêter de confiner tout le temps L'erreur, elle a été, c'est que les Chinois ont continué à confiner tout le temps pour les raisons qui sont politiques.
Heureusement, parce que sinon, on aurait eu une inflation, c'est pas la même. Hein. Heureusement qu'ils ont confiné. C'est-à-dire que la figure du monde aujourd'hui et de l'inflation, si la Chine tournait à plein, on serait totalement au tapis. On va en reparler en deuxième partie de l'émission.